Jim, les pays de l'Union européenne supprimeront l'essentiel de leurs importations de pétrole depuis la Russie, plus de 90%. Les 27 ont donné leur feu vert à un arrêt progressif des importations de pétrole russe transporté par bateau. Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc. C'était une condition de Budapest.
The recent signal that you sent today, because the recent hours, the recent days, there were speculations about the risk for a lack of unity, of European Union's unity, and I think that more than ever it's important to show that we are able to be strong, that we are able to be firm, that we are able to be tough in order to defend our values, to defend our interests.
Le nouveau paquet de sanctions de l'Union prévoit aussi une extension de la liste noire de l'Union européenne à une soixantaine de personnalités, dont le chef de l'Église orthodoxe. Il comprend l'exclusion de 3 banques russes du système financier international SWIFT, dont Sberbank, la principale banque du pays.
I want to note that other elements in the package are also important. It's the de-swifting of the Sberbank. The Sberbank is the biggest Russian bank with 37%. So this is good that we now de-swift the Sberbank.
Les dirigeants ont aussi approuvé l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidité afin de faire fonctionner son économie.
Merci beaucoup Olivier Boulin pour toutes ces précisions. Pour en parler tout d'abord avec nous en liaison Skype, bonsoir Eric Maurice, responsable du bureau bruxellois de la Fondation Robert Schuman, grand spécialiste des questions européennes, et puis avec nous ici en plateau, bonsoir Bruno Coleman, vous êtes bien sûr économiste. Commençons avec vous, nos dirigeants ont toujours parlé de sanctions graduelles en fonction évidemment de l'évolution de la situation de la guerre en Ukraine. Est-ce que ce sixième paquet de sanctions est plus impressionnant, plus dur que les sanctions précédentes?
Oui, incontestablement. Et en même temps, le Premier ministre a parlé de pause dans les sanctions, ce qui veut donc dire qu'il y a une escalade et qu'il veut maintenant y mettre fin temporairement. La véritable question, c'est de savoir à qui on fait mal, parce qu'aujourd'hui, on voit que l'économie russe se porte extrêmement bien. Le rouble est quasiment au plus haut. La Russie va sans doute exporter son pétrole à un coût réduit vers d'autres pays comme l'Inde et la Chine.
Avec certaines difficultés aussi.
Nous allons devoir apporter peut-être plus cher du pétrole d'autres dictatures, comme l'Arabie Saoudite. Et donc, le tout est de savoir quel est l'objectif final. Moi, ce qui me préoccupe dans ces sanctions, parce qu'on a l'air très 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 fiers de le mettre en œuvre, c'est qu'en fait, on s'éloigne de la paix chaque jour un peu plus, et on rend irrémédiable une fracture entre la Russie et le reste de l'Europe.
C'est-à-dire s'éloigner de la paix, qu'est-ce qu'on peut faire pour se rapprocher de la paix?
C'est-à-dire qu'on sort d'une guerre par la négociation. Et donc, le fait d'avoir...
Il faut une position de force aussi pour négocier.
Bien sûr, mais nous nous faisons mal, peut-être plus qu'on fait mal aux Russes. On ne résout pas le problème ukrainien en même temps, et surtout on alimente l'Ukraine avec des armes. Donc la véritable question, c'est de savoir quel sera l'aboutissement de cette guerre. Et moi, depuis le début, je suis un peu interpellé, parce qu'on est dans le pire scénario qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire avoir une guerre entre la Russie et indirectement les États-Unis sur le sol européen, avec des sanctions qui sont imposées par les Européens dont ils seront les victimes, les Européens devant bien sûr apporter le pétrole d'autres pays. Donc il y a une ambiguïté dans cette réalité, et moi j'aurais aimé que nos dirigeants parlent du point d'atterrissage, parce que c'est bien de se gausser d'avoir exclu des banques du système SWIFT, c'est bien de parler de gaz, de pétrole, et encore on est prudent, puisqu'on sait que le gaz c'est quasiment impossible, donc il y a un véritable problème d'aboutissement des choses.
Ahmed Lawesh, comment est-ce que vous interprétez cette déclaration? Parce qu'on a l'impression que c'est un discours qu'on entend de plus en plus souvent, de se demander si finalement on prend les bonnes décisions, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on est vraiment dans la pire situation aujourd'hui, ou est-ce que la pire situation ça aurait été de voir l'Ukraine totalement rasée par les Russes?
La géopolitique c'est de la stratégie, et la question qui se pose c'est de savoir en effet si les dirigeants européens, là où ils se réunissent, donc au plus haut niveau de l'Europe, ont une stratégie affinée et donc savent exactement où ils vont.
Vous en doutez ?
C'est la raison pour laquelle nous devons avoir des débats dans les parlements nationaux, ce qu'on ne manque pas d'avoir, en commission des affaires étrangères, en plénière, pour demander aux premiers de nous rendre des comptes sur les orientations qui sont prises. Mais en effet, on n'a pas la Russie comme belligérant de manière improvisée. Ces gens font de la politique depuis très longtemps, de la géopolitique depuis très longtemps aussi. C'est une puissance stratégique et nucléaire. Ce ne sont pas des gens qui avancent sans réfléchir à ce qu'ils font. En face, il faut pouvoir être à la hauteur. Et on peut en effet faire le bilan et l'analyse de la stratégie européenne. Est-elle déficitaire? Doit-elle être réajustée? Ce sont toutes ces questions qui doivent se poser. Mais n'oublions pas le départ de la crise. C'est l'invasion d'un pays souverain par un autre pays souverain. Si on laisse passer ça, ça veut dire qu'il y a une forme d'impunité internationale au cœur de l'Europe qui s'installe, et ça veut dire que À l'avenir, il sera, me semble-t-il, impossible de pouvoir faire avec cohérence une vraie riposte vis-à-vis de violations du droit international de cette nature.
On reviendra sur l'état de l'économie russe aussi pour un petit peu comprendre à quel point ce que leur fait mal aux Russes, à vous entendre pas tant que ça finalement, mais avant ça, détour par notre Skype avec Eric Morris. On voit cette situation qui évolue assez rapidement finalement, plus vite aussi que l'évolution de la situation sur le terrain. Les dirigeants donc, des 27 ont donc trouvé un accord hier soir qui devrait permettre de réduire de quelques 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. On ne pensait pas ça possible il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Eric Morris, pour qu'on y parvienne enfin ?
Ce qui a changé, c'est qu'on a parlé au niveau des chefs d'État et de gouvernement. On savait que la discussion était très technique, puisque la Hongrie s'opposait à cet embargo parce qu'elle voulait des aides financières pour pouvoir adapter son industrie de la raffinerie à d'autres formes de pétrole, d'autres catégories de pétrole que le pétrole russe qu'elle reçoit par pipeline, parce que la Hongrie, qui n'a pas de côte, donc pas de port, ne peut pas recevoir directement du pétrole différemment. Donc c'est une discussion technique au niveau des diplomates, des ambassadeurs, mais évidemment, ça avait une dimension politique très forte parce qu'on sait que Viktor Orban jouait sa carte pro-russe pour continuer à avoir un acheminement. Et d'ailleurs, il s'est vanté d'avoir obtenu un résultat pour garder de bons rapports avec la Russie et garder un prix du pétrole bas directement avec la Russie. Et puis on sait très bien que la Hongrie, pour l'instant, n'a pas droit au plan de relance européen parce que l'utilisation des fonds européens n'est pas claire. On sait qu'il y a beaucoup de détournement d'argent parce qu'il n'y a pas d'état de droit en Hongrie. Et donc Viktor Orban faisait une sorte de chantage politique à essayer d'obtenir par ce biais-là les sommes d'argent qu'il n'obtient pas par le plan de relance européen en raison des atteintes à l'état de droit. Donc il y avait une forte dimension politique qui ne pouvait être réglé qu'au niveau politique, au niveau des 27 États membres, malgré toutes les arguments techniques que présentait la Hongrie. Et donc ça s'est réglé hier soir entre chefs.
Alors malgré la déclaration d'Alexandre De Croo qui parle de faire une pause maintenant après ce sixième paquet de sanctions, il y a différentes sanctions qui pourraient arriver, ce septième paquet de sanctions. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de s'attaquer donc évidemment au pétrole qu'au gaz ? Que vaut finalement cet embargo sur le pétrole par rapport au gaz ? Est-ce que c'est vraiment une différence colossale entre les deux monopoles ?
Oui, parce que le pétrole peut être remplacé par un autre pétrole, mais le gaz pas. Et l'idée à terme, c'est d'avoir du gaz qui vient de certains pays du Golfe, mais surtout du gaz qui vient d'outre-Atlantique, du gaz de schiste, qui sera donc importé sous forme liquide et qui pourra être un substitut dans deux à trois ans. Mais la véritable question au-delà du gaz et du pétrole, c'est de savoir quelle est en fait la ligne morale qu'on suit. Parce que exclure un pays, prendre des sanctions, c'est bien, et Ahmed Lawesh l'a parfaitement dit, effectivement, il y a un acte de guerre qui a été commis et qui doit être sanctionné, mais ça veut dire alors que dans le futur, on devra avoir une morale qui n'est pas circonstancielle, et qu'on devra juger sur pièce tout pays selon son comportement. Et le vrai danger, et je l'ai souvent écrit d'ailleurs, c'est que les guerres occidentales sont considérées comme des guerres justes, elles ne sont pas plus démocratiques que les autres d'ailleurs, elles n'entraînent aucune sanction, alors qu'une guerre qui vient de Russie est considérée comme étant injuste et doit être combattue. Donc il faut espérer avoir une vision claire, et moi j'attends ça de nos gouvernements, parce que Ahmed Lawesh parle à juste titre d'un débat démocratique, ça doit faire partie d'un débat démocratique dans toutes les circonstances, et pas seulement maintenant.
Différence aussi entre la réelle politique et puis la politique morale ou éthique, et comme vous le dites, ne pas faire du cas par cas, et de vraiment fixer peut-être certains critères aussi.
Souvenez-vous du discours de Deville Pain en 2003 aux Nations Unies, qui a été mis en chanson, que tout le monde a admiré. Si on l'appliquait maintenant, on ne ferait peut-être pas ce qu'on est en train de faire.
Un mot là-dessus, Nicolas Vadeau.
Oui, on sait que Sergueï Lavrov est aujourd'hui en Arabie Saoudite, je crois. On voit qu'il y a tout à coup des liens qui se retissent entre le monde, le Moyen-Orient, voire le monde musulman. Tant Poutine voulait aller buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, ça on a oublié. Donc on a une sorte de réelle politique de ce point de vue-là. Est-ce que en fait ces sanctions n'actent pas un fait accompli d'un retour à un rideau de fer qui ne veut pas dire son nom ?
Si. Je crois qu'on va arriver à une situation où, en fait, on aura une guerre tiède ou chaude avec une ligne de démarcation. Ce sera la ligne Maginot contre la ligne Siegfried, hein, sauf qu'elle va être un peu plus déplacée un peu à l'est.
Maginot n'était pas super efficace.
Non, mais justement, oui. Mais enfin, elle a existé quand même. Les deux ont existé. Donc, il y a eu une coexistence, comme en 1939, avec un état de guerre larvé et qui s'est déplacé maintenant à l'est et qu'on risque maintenant de consacrer par toutes les mesures qu'on prend. Moi, je crois, et ça m'inquiète d'ailleurs, que toutes les mesures qu'on prend, si tant est qu'elles soient même justifiées d'un point de vue politique, vont nous éloigner jour après jour de la possibilité de conclure une paix avec la Russie. Et donc le monde, se séparer exactement comme George Orwell dans son roman 1984, hein, avec trois zones et une quatrième qu'on essaie de combattre pour l'acquérir, avec des frontières qui sont floues. Et on rentre dans un autre scénario. Nicolas avait raison de le dire, l'Arabie saoudite, effectivement, maintenant se rapproche de la Russie. L'Arabie saoudite a dit non aux États-Unis quant à l'augmentation de sa production de pétrole qui aurait fait baisser les prix, ce qui aurait d'ailleurs arrangé les Américains. Et donc ça veut dire qu'en fait, toute l'humanité n'est pas de notre côté. Il y a deux tiers de l'humanité qui est contre l'Europe, qui est pour la Russie. Et donc je crois qu'il faut avoir une vision beaucoup plus synthétique et large de la cartographie géopolitique.
On demandera à nouveau son avis à la députée ukrainienne qu'on aura en direct d'ici quelques instants. Mais avant ça, Eric Maurice, peut-être avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on en parle aussi de la même manière dans différents pays européens, ce juste milieu, cet équilibre à trouver entre évidemment des sanctions qui doivent impacter la Russie, mais aussi garder finalement des voies diplomatiques ouvertes et ne pas se retrouver, comme l'a dit ici Bono Coleman, à cette guerre de deux blocs, cette guerre statique, cette guerre, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, Bono Coleman,
cette guerre tiède,
dans ce cas-là, Eric Maurice.
Alors, c'est vrai qu'il y a des différences peut-être d'approche entre certains pays, avec d'une part notamment la France et l'Allemagne qui continuent d'essayer de parler avec Vladimir Poutine, et certains États comme la Pologne ou les États baltes qui pensent auxquels les faits donnent raison pour l'instant que le dialogue avec Vladimir Poutine ne mène à rien. Je pense qu'il y a une chose très importante à rappeler dans le débat qu'on a, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire la paix aujourd'hui, c'est la personne qui a déclenché cette guerre, c'est Vladimir Poutine. Parce que discuter avec la Russie, qu'est-ce que ça veut dire? La Russie voulait faire disparaître l'Ukraine en tant qu'État indépendant. La Russie continue ses opérations militaires, continue ses crimes de guerre. Et pour l'instant, on ne sent pas, il y a encore eu une discussion avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz et Vladimir Poutine le week-end dernier. Vladimir Poutine a aussi parlé à Mario Draghi, le Premier ministre italien. On n'a aucun signe, aucune indication que la Russie, que Vladimir Poutine est prêt à faire la paix avant d'avoir conquis le maximum de territoire en Ukraine. Et là-dessus, il y a un consensus au sein des Européens. Le consensus au sein des Européens, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'un État aujourd'hui sur le sol du continent européen, donc aux portes de l'Union européenne avec un impact direct sur la sécurité des Européens, on ne peut pas accepter qu'un État envahisse un autre au nom de... D'une raison impériale, puisque quand on lit attentivement les discours de Vladimir Poutine, on est au-delà de ce qui est négociable. On est simplement la négation d'un État indépendant, voire la négation d'un peuple différent du peuple russe. Et aujourd'hui, beaucoup d'officiels en Russie ont ce discours-là, donc on ne voit pas quelles pourraient être les lignes d'une vraie discussion de paix avec la Russie en attendant. Donc pour l'instant, ce que fait l'Union européenne, c'est d'essayer d'atténuer les possibilités de la Russie de financer cette guerre et d'aider le voisin ukrainien à tenir son territoire, sachant que la Russie menace régulièrement des États comme la Pologne ou les États baltes, y compris de manière nucléaire lorsqu'on parle de l'OTAN.
Oui, on peut aussi parler de certaines zones déstabilisées, évidemment la Transnistrie avec ce conflit en Moldavie et encore ailleurs. Bruno Coleman, pour rester sur notre sujet qui vraiment s'intéresse aujourd'hui au sixième paquet de sanctions, accord pour donc l'exclusion de trois banques russes, dont la grande banque de la Sberbank, hein, du système international SWIFT, c'est la plus grande banque de Russie. À quel point est-ce que cette sanction-là, elle est importante? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait avant d'ailleurs?
Mais écoutez, elle n'est pas importante d'un point de vue organique, parce que ce ne sont pas des banques qui sont systémiques, et ces banques ont préparé leur exclusion de SWIFT, mais SWIFT c'est un système universel, c'est en fait un point de ralliement de toutes les banques, ça permet la compensation, c'est établi d'ailleurs en Belgique, et ça se rapproche de l'union postale universelle, qui a été créée au 19e siècle, et qui part de l'idée que les lettres doivent circuler, les lettres écrites, manuscrites donc, doivent circuler. Il y a eu même un protocole, je crois, signé à Tokyo au 20e siècle, disant que même en cas de guerre, les lettres s'échangeaient entre pays belligérants. Et donc, avoir enlevé SWIFT, c'est avoir en fait enlevé une banque, avoir exclu une banque de l'union postale universelle des banques. Et donc ça veut dire que maintenant ce système présente un risque d'exclusion qui peut-être va être imposé à d'autres pays dans le futur. Et donc c'est un phénomène de déstabilisation qui en fait n'est pas nécessaire puisque les avoirs russes de la Banque Centrale de Russie ont déjà été gelés parce que les Russes ont imposé des paiements en roubles, ce qui est plus ou moins respecté, même si ce n'est pas tout à fait par des moyens un peu différents. Mais donc c'est un précédent. Et en fait ce qui m'inquiète dans cette guerre, c'est la somme des précédents qu'on est en train de commettre. Ça veut dire qu'un jour on va devoir se poser la question dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, peut-être en défaveur de pays qui aujourd'hui nous sont proches, mais nous serons éloignés.
Mais est-ce que c'est pas une bonne chose, malgré tout, de se dire qu'en cas de futures agressions comme ça, on l'a dit, un non-respect du droit international, une remise en question même de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, même pour même de l'identité ukrainienne, est-ce que c'est pas une bonne chose, malgré tout, de se dire que vous pouvez finir comme un état paria avec vos banques déconnectées par le système international suisse?
La Russie ne sera jamais un état paria. Elle sera un état paria par rapport à nous, mais pas par rapport aux autres.
Quoi, ils vont récupérer l'Arabie Saoudite.
Voilà, il y a un système SWIFT bis qui est en train d'être créé, déjà, qui est en formation depuis longtemps avec la Chine et avec d'autres pays. Donc il y aura un basculement simplement vers d'autres de compensation. Donc nous sommes les porteurs d'un idéal européen, ce que disait Villepin d'ailleurs, croyant que notre modèle s'applique à tout le monde. Et on exclut les pays de ce qu'on croit être le meilleur système, au-delà de tout ce que la Russie a fait de mal. Et c'est dangereux en termes de précédent.
Ça fait déjà 7 banques qui ont été exclues de ce système international SWIFT. Est-ce qu'on en a une idée de l'impact réel de cette arme financière? Est-ce qu'on sait ce que ça vaut?
À mon avis, c'est un impact infime. La Russie gagne plus d'argent aujourd'hui avec ses exportations qu'auparavant. Et le rouble, qui s'était fortement déprécié, maintenant s'est apprécié, à telle ancienne que la Banque centrale de Russie a dû baisser ses taux d'intérêt pour éviter que le rouble ne se renforce trop et donc empêche les exportations russes. Donc c'est quand même assez incroyable. On a une monnaie qui, de manière intuitive, se déprécie et puis se renforce tellement que les Russes peuvent se permettre de baisser le taux d'intérêt alors que toutes les banques centrales dans le monde sont en train de les augmenter.
Donc pour bien comprendre, parce que je me mets à la place des gens qui sont devant la télévision, qui peuvent parfois du mal à suivre cette discussion, les sanctions qu'on a apprises jusqu'à aujourd'hui, donc ce sixième paquet de sanctions et les cinq avant, aucun effet sur l'économie russe.
À mon avis, très peu. Puisque les prix de l'énergie ont augmenté, le prix du pétrole aujourd'hui a augmenté 3%. 4% ce matin, 3% en fin d'après-midi. Et en plus, le rouble, qui est en fait la force d'une monnaie, c'est le reflet de la force d'une économie. Ce rouble s'est effondré en janvier, bien plus en février. Il est remonté plus haut qu'au début d'année, à telle enseigne que la Banque centrale, maintenant, essaie de ralentir l'augmentation du rouble. Ce qui veut dire que la perception monétaire et financière du monde de la Russie n'est pas mauvaise.
Mais mettons le curseur moral, alors.
Impact économique.
Mettons le curseur moral, alors.
Mais le curseur moral, je pense, il sera pas mis en œuvre dans la guerre, mais dans la paix.
Oui, il faut voir aussi au niveau de l'impact politique aussi de ces sanctions. Peut-être un mot avec vous là-dessus, Éric Maurice, vous vouliez intervenir.
Oui, pour donner des chiffres qui permettent d'avoir une idée plus complète, l'inflation sera de 20% cette année en Russie, donc le cours du rouble est quand même affaibli, en tout cas c'est relativisé par cette inflation qui va être très forte. On prévoit une récession d'environ 10-15%, c'est-à-dire plus que ce qu'on a eu dans l'Union européenne en 2020 avec le Covid. Et puis, il faut voir surtout l'impact de long terme, d'une part, des sanctions sur les importations vers la Russie, notamment en termes de semi-conducteurs, de technologies duales qui vont affaiblir l'industrie russe, et notamment l'industrie de défense, mais aussi l'industrie de pointe, les technologies de pointe russes, toute l'industrie autour de l'informatique et tout cela. Et puis, il faut voir que si le rouble est fort, c'est que la banque centrale russe le soutient pendant un moment, mais puisque les banques russes sont coupées de SWIFT, puisque les échanges avec la banque centrale russe sont aussi interrompus, cet effort-là de soutien du rouble ne pourra pas durer indéfiniment. Donc en fait, les sanctions vis-à-vis de la Russie vont avoir un effet probablement de plus en plus fort. Effectivement, le niveau du pétrole est une garantie pour la Russie d'avoir des revenus à court et moyen terme, mais à long terme, tout cela sera probablement affaibli par l'ensemble de l'effet des sanctions. Donc je pense que c'est assez important à garder en tête.
Les dirigeants l'ont dit, tout début, au moment de prendre les sanctions, que l'impact serait peut-être aussi gros chez nous qu'en Russie. C'était une des responsabilités à prendre. Détour par la rédaction N24 avec vous, Olivier Boulin, qu'on vous écoute, Olivier, pour notre chiffre du soir qui en dira aussi.